Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média au menu. Média et culture au sens large. Tous les médias, toutes les formes de culture. Nos indispensables du jour, des conseils séries et cinéma. Et un sommaire très riche aujourd'hui encore. Notre info média, en marge de l'article 24 de la loi Sécurité Globale, une charte rédigée par le service de communication de la police, le SICOP, devrait désormais être signée avant chaque tournage avec des policiers ou des gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions. Ces conditions, dont certaines semblent nouvelles, les reporters et surtout les chaînes de télévision les refusent. Ils l'ont dit dans une tribune publiée samedi. Pour quelles raisons ? Réponse avec Élise Lucet, co-signataire de la dite tribune. Nos invités ensuite, Xavier Domergue et Camille Abili, ils commandent France-Kazakhstan ce soir en direct sur W9, c'est du foot et ce sont les filles qui jouent. Question, où en est-on de l'engouement depuis la Coupe du Monde féminine de 2019 et la France déjà qualifiée peut-elle remporter l'Euro 2022 ? Réponse à 9h40. Enfin, Hervé Villard, inoubliable interprète et surtout auteur de Caprice est fini, il publie une sorte d'autobiographie de ses années 70-2000. Ça s'appelle Du lierre dans les arbres, c'est très personnel. Il y aura en prime son portrait inattendu par Hélène Manarino, elle aussi très personnelle. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decaen.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias, le sommaire du jour Charles.
Emmanuel Macron veut parler aux jeunes, C8 s'intéresse à TF1, les feux de l'amour sortent le champagne et Dua Lipa aussi.
Et on commence par les audiences, qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé ?
M6 a pris la première place avec la suite de L'amour est dans le pré saison 15, l'émission de dating a été suivie par 3 900 000 téléspectateurs, soit 17,8% du public. M6 est aussi leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 25% de part d'audience. C'est France 2 qui suit en deuxième position avec le final de Bodyguard. La série britannique est stable à 3 300 000 téléspectateurs, soit 15,4% de part d'audience. TF1 est troisième et faible avec une fiction inédite. Coup de foudre sur un air de Noël a été suivi par 2 900 000 personnes seulement, soit 12,7% du public. Et sur les femmes de moins de 50 ans, la chaîne ne brille pas non plus à 15%. Et derrière, c'est très serré entre 5 chaînes qui sont toutes au-dessus du million de téléspectateurs. C'est assez rare pour être signalé. Alors c'est une très belle performance pour Arte, par exemple, 4e à 1 400 000 pour le film Tandem. Elle est beaucoup moins belle, la performance pour France 3. Le film 120 battements par minute n'est que 7e à 1 200 000 téléspectateurs.
Culture Média.
Et on démarre ce journal des médias avec l'interview qu'Emmanuel Macron va donner après-demain, jeudi, mais pas à la télévision.
Et non, il le fera sur les réseaux sociaux. Le président de la République tente ainsi de s'adresser aux jeunes. Il répondra aux questions des journalistes de Brut, mais aussi à celles des internautes. L'entretien sera diffusé en direct sur le compte Snapchat de Brut, mais aussi sur ses pages YouTube et Facebook, sans doute en fin d'après-midi, peut-être vers 17h. Et ce n'est pas tout, il sera retransmis aussi sur France Info, qui a lié depuis quelques années un partenariat avec Brut. Diffusion en direct à la télé, mais aussi sur sa page Facebook et sur le site de France Info.
Une prise de parole qui intervient alors que la contestation autour de l'article 24 de la loi Sécurité Globale se poursuit.
Oui, on l'a entendu dans le journal de 9h, l'article 24 sera intégralement réécrit, mais la mobilisation ne faiblit pas et des appels à manifester ont même été lancés pour aujourd'hui. Un rassemblement est prévu ce soir devant la préfecture du Mans, mais aussi à Auxerre, appel du SNJ.
Le focus média du jour, c'est la politique de programmation de documentaires de la chaîne C8.
Oui, une politique qui paye. En 2018 et en 2019, la meilleure audience annuelle de la chaîne a été signée par un documentaire. En 2018, la guerre des clans pour l'héritage de Johnny Hallyday a cartonné. Et l'an dernier, c'est le scandale Christian Quesada, ce candidat du jeu de TF1 Les 12 coups de midi, qui a fait exploser les compteurs. Alors, il faut bien avouer que le documentaire n'est pas forcément le genre qu'on associe le plus spontanément à C8.
C'est vrai.
Mais la chaîne en programme une petite vingtaine par an, sur Patrick Sébastien ou sur l'Amérique de Donald Trump récemment. Ce soir, à 21h15, C8 diffusera la vraie vie de vos aventuriers, portrait d'anciens candidats emblématiques de Koh-Lanta. Et avant la fin du mois, elle consacrera deux autres documentaires à des programmes et à des personnalités de TF1, Jean-Pierre Pernaut et Miss France. Louise Bernard a demandé au directeur des programmes et de l'antenne de C8, Vincent Pujol, pourquoi la chaîne s'intéressait tant à TF1.
En toute transparence, c'est un hasard heureux ou malheureux, je ne sais pas, mais c'est vraiment l'idée de mettre en lumière ces grands événements qui vont être des événements du mois de décembre, des événements cathodiques. Un des assets de C8, c'est quand même d'avoir tous les jours, via Touche pas à mon poste, à l'émission de Cyril, une matière média qui est pendant 2 heures triturée, passée au peigne fin, et ça depuis plusieurs saisons. Donc le fait qu'en prime, derrière, il en découle ce genre de thématique traitée avec des angles où on a le temps d'aller plus en profondeur sur les sujets pendant une heure et demie. C'est vraiment dans la droite lignée de ce qu'on a l'habitude de faire et dans ce que nos téléspectateurs sont habitués à suivre tous les jours via notre feuilleton « Touche pas à mon poste ».
Alors en 2021, la chaîne ne paraîtra pas que sur TF1, bien sûr, comme l'a révélé Vincent Pujol en avant-première à Culture Média.
On va aussi revenir à des thématiques qu'on avait un peu délaissées, notamment l'histoire, qu'on va traiter aussi pareil sous forme de documentaire. On a une collection dont on est très fier, qui devrait arriver dans les 3 premiers mois de 2021 autour des bâtisseurs des pyramides. Ça sera de la grosse production avec des grosses reconstitutions. Et on est content de revenir sur ce terrain-là qui est un terrain qu'on avait un peu délaissé ces 3 dernières années.
Tout à fait autre chose, le confinement a une fois encore augmenté la durée d'écoute de la télévision en novembre.
D'après Médiamétrie, les Français ont passé en moyenne 4h23 devant un programme télé le mois dernier. C'est une demi-heure de plus qu'en novembre 2019. Mais on n'est pas tout à fait au niveau du premier confinement où cette durée avait atteint 4h40.
Et puis le focus programme du jour, c'est le documentaire de France 5, Arctique, la guerre des pôles.
Un documentaire passionnant sur un sujet assez peu connu des Français. Nous, quand on pense Arctique, on imagine un territoire inhabité, quelques ours polaires sur la banquise. En réalité, l'Arctique est d'abord le lieu d'un drame environnemental et c'est ce que voulait raconter à l'origine la réalisatrice du documentaire Agnès Hübschmann. Mais ses recherches et son travail l'ont mené ailleurs, comme elle l'a expliqué à Louise Bernard.
J'étais vraiment partie pour faire un film presque plus environnemental. Et puis au fur et à mesure, on va dire, de ce travail, on s'est rendu compte que finalement, les conséquences géopolitiques, elles étaient immenses, elles étaient gigantesques, qu'il y avait une dichotomie complètement dingue entre le drame qui était en train de se jouer en Arctique sur le plan environnemental et la prise de position des États, des grandes puissances, pour essayer au contraire de tirer profit de cette fonte et de cette catastrophe en cours. Et c'était cette différence entre les deux qui, moi, m'a beaucoup choquée et qui m'a donné vraiment envie de faire quelque chose là-dessus.
Ces grandes puissances, ce sont la Russie, la Chine, mais aussi les États-Unis. Agnès Hübschmann nous explique pourquoi ces pays se frottent les mains alors qu'un drame environnemental se produit.
Ça permet d'accéder à des nouvelles ressources, des ressources qui ont été protégées pendant des années par les couches de glace et qui seront peut-être plus accessibles quand la banquise aura fondu, quand les températures seront un peu plus clémentes. Alors, ce n'est pas tout de suite, mais bien sûr, les États, dans ces cas-là, on va dire, ils pensent à long terme. Donc, ces ressources, elles sont colossales et elles font très envie à beaucoup de pays. Il y a ceux qui les possèdent déjà d'avance, puisqu'ils sont eux-mêmes des pays arctiques. Mais il y a aussi des pays non arctiques qui s'intéressent à ces ressources, à ce véritable trésor souterrain qui est sous la glace et qui va peut-être demain être plus facilement accessible. Il y a aussi un autre trésor, les routes maritimes. Le fait que la glace fonde, ça va carrément ouvrir, on va dire, les routes, la navigation commerciale possible peut-être par cette zone-là. Et ça aussi, c'est une raison, on va dire, qui aiguise les appétits de nombreuses puissances.
Arctique, la guerre des pôles, c'est ce soir à 20h50 sur France 5.
Carnet rose, bien loin des pôles, et là c'est chaud. L'équipe des Feux de l'amour souffle aujourd'hui ses 12 000 bougies.
Ouais, 12 000 bougies, ça doit faire fondre la glace. C'est ce mardi, donc le 12 millième épisode du feuilleton américain sera diffusé aux États-Unis sur CBS. Lancé en mars 73, la série a prévu de fêter dignement cet anniversaire avec une semaine spéciale au programme des flashbacks sur les moments les plus marquants de son histoire et le retour de quelques personnages emblématiques.
Imagine les scénaristes, 12 000 épisodes. Après la prison, retour à la télévision pour Felicity Huffman.
L'actrice américaine a décroché l'un des rôles principaux d'un nouveau projet de série comique pour la chaîne ABC. Depuis l'an dernier, l'inoubliable Lynette Scavo de Desperate Housewives avait surtout fait parler d'elle suite à son implication dans le scandale de tricherie aux examens d'admission aux universités américaines. Elle avait même passé 11 jours en prison pour avoir payé un homme afin de falsifier le score de sa fille pour lui assurer une place dans une université prestigieuse.
12 000, c'était déjà pas mal, mais on termine quand même ce journal avec un chiffre qui donne lui aussi le tournis.
Voilà, 5 millions d'internautes auraient assisté vendredi soir au concert streamé de Dua Lipa Studio 2054 selon l'équipe de la chanteuse. Alors ça donne le tournis parce que c'était un concert payant qui était facturé une dizaine d'euros environ. Alors ces 5 millions c'est une estimation car plusieurs personnes ont pu assister au concert via un seul ordinateur. On n'a pas le nombre exact de billets vendus mais c'est déjà énorme et surtout ce n'est pas encore fini. Le concert est disponible jusqu'au 6 décembre et vu les excellentes critiques qu'il a reçues, ce chiffre devrait encore grimper dans les jours à venir. L'occasion de se quitter avec un petit bout de Dua Lipa.
C'est complètement dingue. 5 millions, une dizaine d'euros. Les producteurs calculent, ça fait 50 millions voilà. En une seule recette, en une seule soirée.
Pour un concert diffusé sur Internet.
Complètement dingue. Merci beaucoup Charles Decan. À demain un nouveau journal des médias. Dans un instant, notre info média du jour, nous serons avec Élise Lucet, présentatrice d'Envoyé spécial et de Cash Investigation. On va parler avec elle de toute autre chose. Une convention qui fait polémique, convention qui régit parfois les relations entre journalistes, policiers et la presse. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Il n'y a pas seulement l'article 24 de la proposition de loi Sécurité Globale qui brouille actuellement les relations entre la presse et les forces de l'ordre. Il y a également une convention qui existe depuis quelques années, une charte qui est rédigée par le service de communication de la police, le SICOP, charte qui doit être signée avant tout tournage avec des policiers et des gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions. Elle régit donc les conditions dans lesquelles sont réalisés les reportages vidéo consacrés aux forces de l'ordre. Ceux, entre autres, dans lesquels on suit au plus près leurs interventions. Ces conditions, dont certaines semblent nouvelles, les reporters, les producteurs et surtout les chaînes de télé, les diffuseurs les refusent. Ils l'ont dit dans une tribune publiée samedi dernier sur le site de France TV Info. Que dit précisément cette convention et pourquoi la contester aujourd'hui? Des questions que nous allons évidemment poser à notre invité. Bonjour Élise Lucet.
Bonjour.
Faut-il vous présenter? Vous êtes la présentatrice et la rédactrice en chef des deux magazines d'info de France 2, Envoyé spécial et Cache Investigation. Et vous faites partie des signataires de cette tribune. Parmi eux également tous les directeurs de l'information des grands groupes de télévision, TF1, France Télévisions, M6, Arte, Altice Média qui chapeaute les chaînes BFM et les chaînes RMC. Il ne manque que Canal+. Il y a également des producteurs comme Emmanuel Chin, Laurent Bon, Renaud Levent-Kim de Brut, dont on parle, qui va donner une interview du président Macron jeudi. En tout, 70 personnes ou organisations, des réalisateurs, des rédacteurs en chef, des sociétés de journalistes. Pardon d'avoir été un peu long, mais c'est pour avoir de wall picture, comme disent les Américains.
C'est un collectif, comme on dit.
Alors, pour bien comprendre le sujet et avant de rentrer dans les détails, comment les journalistes, les producteurs travaillent-ils habituellement avec les policiers ou les gendarmes quand il s'agit de les filmer dans l'exercice de leur fonction? Autrement dit, qu'est-ce qu'il est commun? Est-ce qu'il est commun de signer une convention entre journalistes et policiers?
Oui, c'est arrivé. Ça arrive depuis des années d'ailleurs. C'est une pratique assez ancienne. Et j'ai envie de dire que c'est un sens des responsabilités qu'on a chacun. Imaginons qu'on soit dans une affaire de terrorisme, qu'on soit dans une affaire de sécurité nationale ou qu'on tourne dans une prison. Il y a bien sûr des risques à exercer notre métier avec une caméra, à mettre des gens en danger ou à découvrir tout simplement les mesures de sécurité qui sont mises en prison. Donc, dans ce cadre-là, on signe effectivement régulièrement des conventions avec la pénitentiaire, avec le ministère de l'Intérieur, parfois avec la chancellerie aussi pour ne pas faire annuler une affaire judiciaire en cours. Mais ce sont des conventions qui répondent totalement à nos chartes déontologiques. Donc ça ne nous pose pas de problème de les signer. J'allais dire que c'est en tout sens de responsabilité de la part des journalistes et de la part des institutions.
Sauf que là, en l'occurrence, la tribune dit que, je cite, les conventions de tournage établies à l'origine pour protéger la sécurité des personnes, de personnes ou d'institutions dans des cas très spécifiques, ces conditions sont détournées de leur esprit initial. C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que petit à petit, on a le sentiment que des alinéas ont été rajoutés, des chapitres à ces conventions. Et dernièrement, effectivement, on a été confronté à une convention qui, par le SICOP, donc le service de communication du ministère de l'Intérieur, qui nous demande que le ministère vise le reportage sur le plan éthique, juridique et déontologique. Et là, effectivement, ces phrases-là nous semblent absolument inacceptables et impensables. Vous pensez bien qu'un journaliste ne peut pas faire viser son reportage sur un plan éthique, juridique et déontologique par quelque institution que ce soit le ministère de l'Intérieur, que ce soit la chancellerie. C'est impossible que des sociétés de production, que les directeurs de l'information, que les patrons de magazines, que les reporters, que les sociétés des journalistes, que les représentants de producteurs ou d'agences de presse comme le SATEF par exemple, se plient effectivement à ces exigences.
Ça c'est l'article 9, et juste un mot, c'est assez flou, la déontologie de qui? Des journalistes ou des forces de l'ordre?
En l'occurrence, nous on le comprend comme leur déontologie mais aussi la nôtre, donc comme une intrusion si vous voulez, ces conventions petit à petit...
Non mais ce que je veux dire, c'est que si un reportage montre quelque chose où on voit les forces de l'ordre ne pas respecter leur déontologie à eux. Ça veut dire qu'ils auraient le droit de faire couper la séquence ?
Ben justement, c'est pas clair du tout, en fait, cette convention. Ce qui est clair, en revanche, et ça, moi, je tiens à le dire, mais je le dis vraiment au nom du collectif, ça. C'est pas Élise Lucet, là, qui s'exprime.
Bien sûr.
C'est 70 personnes qui s'expriment et qui représentent tout le métier. Quand vous pensez
toutes les chaînes
même,
de télévision, je l'ai dit et je le répète.
Toutes les chaînes de télévision, quand vous pensez quand même que les directeurs de l'info signent cette tribune, c'est qu'il y a péril en la demande. Clairement. Donc ce qu'on dénonce et ce qu'on dit, c'est qu'encore une fois, en toute responsabilité, s'il s'agit de ne pas mettre des gens en danger dans des affaires judiciaires, pénitentiaires ou policières, on peut comprendre effectivement des visionnages techniques, ce qu'on appelle des visionnages techniques.
Ça vous est déjà arrivé.
Mais oui,
il est déjà arrivé qu'il y ait des représentants des forces de l'ordre ou même de l'armée.
Je vais vous expliquer très clairement qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là. Sur les passages entre guillemets sensibles, nous on coupe le son, ça veut dire que le représentant du ministère n'entend pas le reportage, mais on se met juste d'accord sur le floutage ou de certains documents ou de certains visages pour que ces personnes ne soient pas mises en danger. Imaginez par exemple qu'on filme un commando du GIGN. On ne va pas révéler le visage des agents du GIGN. Imaginons qu'on soit sur une affaire judiciaire ou de terrorisme extrêmement sensible. On ne va pas révéler des documents qui peuvent, à un moment, faire capoter une affaire judiciaire ou une affaire de terrorisme.
Ou les installations.
Donc ce genre de installations de sécurité dans une prison.
Ou dans un sous-marin nucléaire,
ou
par
dans
exemple.
Un sous-marin
et pour
nucléaire.
Vous dire, parce que moi j'ai déjà vécu ce cas de figure.
C'est visionnage technique.
Je veux juste dire un mot pour dire que c'est absolument normal. J'ai vécu ce cas de figure. Moi j'ai eu longtemps une émission sur la Formule 1. Et quand vous filmez à l'intérieur d'une écurie, il y a quelqu'un de l'écurie qui vient voir parce que vous filmez, mais vous pouvez donner des secrets à la concurrence.
Mais là, en l'occurrence, franchement, c'est sur des affaires de sécurité nationale ou de mise en danger de la vie de personnes. Et qu'on soit clair, ces visionnages techniques, ça consiste à montrer quelques petits extraits du reportage uniquement sur les éléments floutés pour qu'on soit bien d'accord sur la qualité du floutage ou des choses
bien
comme
sûr.
Ça. Mais les services de communication des différents ministères n'écoutent pas nos commentaires, ne regardent pas nos reportages en intégralité, ne demandent pas à viser le reportage avant diffusion et donner l'autorisation d'une diffusion. Ce qui, là, dans cette convention, est écrit clairement. C'est ça que nous refusons clairement. Donc, ces visionnages techniques ont toujours existé, franchement, depuis assez longtemps. Donc, ça, là-dessus, il n'y a pas de problème, parce que j'allais dire que déontologiquement, journalistiquement, il n'y a pas de problème. En revanche, la dérive et le côté de plus en plus intrusif de ces conventions n'est pas acceptable par l'ensemble de la profession.
Que va-t-il se passer maintenant ? Ça, c'était avant. La presse, et juste après ça, on reste dans Culture Média avec Élise Lucet. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Avec Élise Lucet, on parle de cette convention qui existe depuis quelques années et dont il semblerait qu'il y ait des alinéas qui s'ajoutent mois après mois, charte rédigée par le service de communication de la police, le SICOP, et qui doit être signée avant chaque tournage quand ils mettent en cause, en œuvre, en image des policiers et des gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions. Élise Lucet, cette convention n'est pas nouvelle, elle daterait de 2017. Selon le site de l'Observatoire des médias, c'est assez flou, on n'arrive pas à connaître les chiffres très précis. Vous savez si elle a déjà été signée par les deux parties depuis cette année-là ?
Pardonnez-moi, mais moi, je ne sais pas si elle existe depuis 2017. En tout état de cause, je l'ai vue pour la première fois il y a seulement 15 jours. Donc, on ne l'avait pas vue avant. Est-ce qu'elle a été signée par certaines sociétés de production ? J'ai envie de vous dire que ce n'est pas le problème. Peut-être qu'à la marge, elle a été signée parfois par des sociétés de production. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que ces institutions se sentent le droit de nous la proposer à signature. C'est ça le problème, si vous voulez, que le ministère de l'Intérieur, aujourd'hui, que le ministère de la Justice, aujourd'hui, se sentent autorisés à nous proposer une convention où on dit clairement que des agents du ministère, en l'occurrence du service de communication, vont viser nos reportages sur le plan éthique, juridique et déontologique, c'est ça qui va pas. Et c'est si vous voulez, c'est le sens de cette tribune, c'est de dire à un moment, il ne peut pas y avoir un droit de regard des institutions, quelles qu'elles soient, sur les reportages qui sont totalement réalisés dans le principe de la liberté d'informer des citoyens. C'est impossible. Donc ce que nous demandons aujourd'hui très clairement, et un courrier part dans ce sens aujourd'hui, c'est qu'un rendez-vous soit organisé au ministère de l'Intérieur et à la chancellerie, c'est-à-dire au ministère de la Justice, parce que ce sont les deux ministères les plus concernés, et que très clairement, l'intrusion de ces institutions dans la manière dont nous devons réaliser librement et en toute déontologie nos reportages s'arrête. Ça n'est plus possible, ça n'est pas possible.
Alors je dois dire que nous avons évidemment contacté le CICOP pour en avoir le cœur net et selon l'expression consacrée, ils n'ont pas souhaité réagir. Vous parlez du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice. Il y a un article du site Arrêt sur Image publié hier qui affirme que cette mobilisation et cette contestation font suite à l'intervention du ministère de la Justice. La chancellerie aurait tenté sans succès de faire retirer une séquence dans le magazine d'une grande chaîne. Arrêt sur Image n'en dit pas plus. Est-ce que vous avez eu vent de cette histoire ?
Non, très franchement, mais je peux vous dire que ça arrive assez régulièrement, si vous voulez. Et c'est ça qui pose problème. Qu'il y ait des volontés d'intrusion dans nos reportages de plus en plus fréquentes, c'est vrai et c'est ça qui pose problème. Que de notre part, il y ait une vraie résistance à ces tentatives d'intrusion, c'est vrai aussi. Donc, très régulièrement, des rédacteurs en chef, des patrons d'émissions vont dans ces ministères, discutent et disent « Non, nous ne signerons pas ça. Nous allons quand même faire ce tournage. » C'est des discussions qui peuvent durer 2 heures, 3 heures. Mais nous ne signerons pas cet alinéa parce que ça porte préjudice à notre liberté d'informer les citoyens et donc aux citoyens eux-mêmes.
Mais est-ce que c'est à prendre ou à laisser ? Quand vous dites « On va discuter », on dit « Non, nous ne voulons pas de ces conditions », est-ce que dans ce cas-là, l'autorité en face de vous dit « Dans ce cas-là, vous n'avez pas l'autorisation de tourner avec nous, vous n'êtes pas embedded, comme on dit. »
Oui, mais ça va poser un problème, parce que là, comme vous avez 70 signataires, comme vous avez toutes les chaînes, si aucune des chaînes n'a plus le droit de tourner, ça veut dire qu'il n'y aura plus aucun tournage avec le ministère de la Justice ou avec le ministère de l'Intérieur, ou plutôt, j'ai envie de dire, avec les policiers sur le terrain, avec les magistrats sur le terrain. Je ne pense pas que les ministères y aient véritablement intérêt.
La Tribune a été publiée samedi, je le rappelle, jour de manifestation pour protester contre la proposition de loi dite sécurité globale. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? Est-ce que vous êtes dit, vous les signataires, tiens, le moment est porteur ?
C'est-à-dire que c'est un concours de circonstances, parce qu'effectivement, on a vu apparaître cette convention dernièrement, mais oui, le contexte est là. Quand vous avez un article 24 dans la loi de sécurité globale qui, à un moment, dit qu'il ne faut pas effectivement porter des préjudices physiques ou moraux à des policiers, c'est extrêmement difficile à évaluer. Donc on sent, si vous voulez, en tout cas nous, la profession, on a senti aussi que dans cet article 24, il y avait une possibilité d'entrave à la réalisation de notre métier sur le terrain. Et donc ça, bien sûr, a joué dans le fait qu'à un moment, toute la profession se soit mobilisée. C'est rare, vous savez. D'habitude, on travaille plus un peu toujours dans notre coin, on va le dire, les chaînes les unes contre les autres. On est des concurrents. Là, moi, je crois que c'est la première fois que je vois un tel mouvement d'ampleur qui réunit des directeurs de l'information aux patrons d'unités de magazines. Il y a quand même la directrice des magazines de France 2, il y a des directeurs de magazines aussi de M6 qui sont là, les reporters sur le terrain, les sociétés des journalistes, les représentants des syndicats d'agences de presse. Enfin, tout le monde est là. Donc je pense qu'à un moment, des présentateurs aussi, des rédacteurs en chef. Si tout le monde est là, c'est qu'effectivement, là, par l'intermédiaire de cette convention, on dit maintenant stop, ça n'est plus possible, on ne peut pas se soumettre à ça.
L'article 24 de la proposition de loi sécurité globale va être totalement réécrit. Oui. La décision a été prise hier à l'Élysée. Est-ce que cela vous convient, Élise Lucet ?
Écoutez, moi, j'ai pas grand-chose à dire au niveau politique. Je ne suis pas un acteur politique. Si vous voulez, ce qui nous convient, c'est que toute entrave...
Non, moi, je parle du fond.
Sur le fond, le fait que cet article ait été retiré et le fait qu'il soit effectivement rediscuté et réécrit ne peut que nous convenir, parce qu'il y avait des risques d'entrave à notre profession, à tous, donc bien sûr. Mais après, je sais où je suis. Je suis journaliste, j'ai une carte de presse, et franchement, tous les signataires qui sont avec moi dans cette tribune sont pareils. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir faire notre métier en toute liberté, ne pas avoir d'entrave par rapport à ça, et le faire en toute conscience par rapport aux téléspectateurs qui nous regardent, c'est important, ils ont le droit à une information libre.
Vous pratiquez l'investigation sur France 2, pièce à conviction, le magazine d'investigation de France 3 va s'arrêter dans quelques semaines. Vous l'avez présenté pendant 11 ans, de 2000 à 2011.
Je l'ai créé avec Hervé Brosini.
Quelle a été votre réaction quand vous avez appris sa disparition annoncée ?
Petite tristesse, bien sûr, parce qu'on a créé ce bébé avec Hervé il y a 20 ans, effectivement, et c'était le premier magazine d'investigation à la télé à l'époque, et c'était un sacré pari, et je remercie d'ailleurs Hervé Brosini, qui est un peu mon papa professionnel.
Il y en avait sur Canal quand même, des magazines d'infos.
Non, après.
Ah bon ?
Eh oui, après.
Oh là là.
Eh oui, oui.
Je ne vais pas m'avancer sur ce coup-là.
Et complément d'enquête, après aussi, si, je vous assure.
D'accord.
Et donc, c'était un marqueur pièce à conviction, mais force est de constater que depuis, et c'est tant mieux d'ailleurs, sur France Télévisions, il y a eu énormément de magazines d'investigation. Je pense à Complément d'enquête, je pense aussi à Cache Investigation, mais Le Monde en face fait aussi de l'investigation. Et peut-être y avait-il trop d'offres d'investigation sur France Télévisions. Et pièce à conviction a peu à peu, on va dire, perdu un peu son fil avec le public. Donc, il faut savoir, je pense, à la fois renouveler les offres en fonction de ce que nous dit le public et en même temps conserver toutes ces cases d'investigation, puisque c'est un des marqueurs du service public. Donc il faut s'en assurer et on est vigilant là-dessus.
Ah bah tiens, justement, pour s'en assurer, ça sera auprès de Laurent Guimier, c'est le nouveau directeur de l'Info de France Télévisions. Il dit que le magazine sera remplacé. Est-ce que vous en avez parlé avec lui ?
Ah non, non, bah en l'occurrence non, parce que là je ne suis pas concernée.
D'accord, mais il aurait pu vous en parler quand même.
Non, il ne m'en a pas parlé.
Merci beaucoup Élise Lucet. Envoyé spécial, c'est jeudi sur France 2. Cache Investigation revient quand ?
Alors c'est le 10 décembre, avec une super enquête sur les services publics et la manière dont ils sont peu à peu privatisés avec des sous-traitants. Et on parle notamment du bio-nettoyage des chambres d'hôpital, c'est-à-dire le nettoyage poussé des chambres d'hôpital pour qu'il n'y ait pas de maladies nosocomiales, de virus ou de microbes. Vous voyez que c'est très très actuel et notre journaliste, notre réalisatrice Marie Maurice a réussi à se faire embaucher par une grosse société de nettoyage privé et je vous assure ce que vous allez découvrir à l'antenne est absolument stupéfiant.
Ça donne envie de l'inviter pour venir en parler. Merci beaucoup Élise Lucet.
Faites-le, elle est
dans
formidable.
Dans un instant, on va parler de foot avec les filles qui jouent au foot. Pareil qu'on n'a pas le droit de dire foot féminin. Où est passé l'engouement suscité ces dernières années par les bonnes performances des Bleus avec un E à la fin, intact ou un peu en berne ? On fait le point avec le duo qui commande désormais les matchs de l'équipe de France. C'est Camille Abili et Xavier Domergue. À tout de suite. Merci Élise Lucet.
Merci à vous.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Xavier Domergue.
Bonjour Philippe.
Vous êtes journaliste sportif dans le groupe M6. Bonjour Camille Abili.
Bonjour.
Camille Abili, je prononce bien votre nom. Vous êtes ancienne joueuse professionnelle de foot, ex-internationale, 183 sélections en équipe de France et 37 buts. Je vous ai cité en second car vous êtes la consultante et c'est comme ça qu'on fait habituellement. On dit Margoton et Lisa Razou et ce soir vous allez commenter tous les deux le match France-Kazakhstan. Ce sera sur W9 à 21h en direct de Vannes. Vannes, où vous vous trouvez ?
Exactement, oui, nous avons la chance d'être arrivés à Vannes depuis hier. On reste un petit peu en Bretagne en ce moment. On était à Guingamp il y a quelques jours. On a fait un petit aller-retour entre temps.
Voilà, et je précise pour les puristes du masque, je suis seul en studio, donc j'ai retiré le masque. Comment vous dites ? Vous dites foot féminin, féminine en foot ? Il y a certains qui récusent le terme de foot féminin, car le foot, c'est le foot. Comment vous dites, Camille ?
Moi, je dis foot féminin. Voilà. Alors, peut-être qu'on va me le reprocher, mais c'est vrai que j'étais habituée comme ça, je pense.
Je m'abrite sous votre expertise. Ce sont les qualifications pour l'Euro 2020 ce soir. Quel est l'enjeu de ce match ? J'ai bien compris, les Bleus sont déjà qualifiés.
Les Bleus, oui, effectivement, Philippe, les Bleus sont déjà qualifiés. Un parcours quasi sans faute, si on nommait effectivement le match nul à l'aller contre l'Autriche, en Autriche. Mais sinon, voilà, 6 victoires, 1 nul en 7 matchs, pour faire un petit topo général. 32 buts inscrits, pas le moindre encaissé. Donc ça veut dire qu'en ce qui concerne le sportif, tout va très très bien. Et voilà, cette équipe de France est ambitieuse, à l'image de sa sélectionneuse et de ses joueuses. Donc pour notre plus grand plaisir, et c'est vrai qu'il y a un engouement qui perd dur, je trouve, depuis la Coupe du Monde. On le voit notamment sur les chiffres qu'on a la chance de constater après les matchs.
Ouais, malheureusement, ou peut-être heureusement, on ne peut pas constater la différence d'audience dans les tribunes, puisque c'est interdit d'aller voir les matchs de foot en ce moment. Xavier, vous arrivez de Bing Sport et vous êtes désormais dans le groupe M6. Vous remplacez Denis Balbir. Vous êtes spécialiste des équipes de filles ?
Pas particulièrement, mais j'ai eu la chance de suivre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais lorsque j'étais du côté de Beansport pendant 8 ans.
Les filles.
Et c'est vrai, oui, voilà, c'est vrai que j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour le football féminin. À l'époque, Camille jouait encore parce qu'elle a arrêté il y a pas très longtemps et elle faisait partie effectivement des joueuses phares de la sélection, mais aussi de l'Olympique Lyonnais, son club. Et donc du coup, voilà, moi j'ai toujours été un peu au contact. Donc aujourd'hui, avoir la possibilité de continuer sur les antennes du groupe M6, sur W9 en l'occurrence, et de continuer sur l'équipe de France, c'est pour moi un vrai privilège.
Camille Abili, comment on commente un tel match quand ce sont vos copines qui jouent ?
Tout simplement, j'essaye d'être la plus objective possible. Après, c'est vrai que maintenant, depuis que j'ai arrêté, je suis entraîneur adjoint aussi à l'Olympique Lyonnais, donc j'ai plus du tout le même regard, on va dire, sur les joueuses. C'est vrai que j'essaye d'être la plus... analyser le mieux possible et la plus performante possible. Donc voilà, après, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très exigeant. Donc même quand j'étais sur le terrain, les filles me connaissaient et c'est pas parce que c'était mes amis ou que j'étais forcément plus tendre avec elle. Elle me connaissait mon exigence et je pense que c'est la même chose là. Quand c'est bien, forcément, je le cite et je le mets en avant. Ouais. Et quand on peut mieux faire, on cherche à s'améliorer. En aucun cas, c'est de la critique, c'est souvent dit de manière bienveillante.
Vous avez une totale liberté de parole ?
Oui, oui, sincèrement, oui. Et pour le moment, alors c'est vrai que j'en côtoie en plus certaines tous les jours à l'entraînement. Elles m'ont jamais fait le reproche encore. J'ai jamais rien entendu de leur part. Donc ça va. C'est que ça doit pas être si mal que ça.
Alors justement, c'est le pas de reproche. C'est peut-être une qualité. C'est peut-être un défaut. Parce qu'en ce moment, j'apprends rien à personne. On a même parlé dans la matinale d'Europe. Il y a du grabuge en équipe de France. Ça tangue un peu. Le 15 novembre sur Canal+, la capitaine Amandine Henry avait déclaré qu'il y avait énormément de problèmes. Je la cite chez les Bleus. Elle avait surtout ciblé la sélectionneuse Corinne Diacre, dont le management pendant le Mondial 2019 était qualifié par Amandine Henry de chaos total. Et Xavier, vendredi, à l'occasion de France-Autriche, que j'ai regardé sur vos antennes, vous avez évoqué ce conflit avant le match, mais vraiment de très très loin, en des termes qu'on peut qualifier d'euphémisme.
Et le principal objectif, il avait été déjà annoncé au tout début de ces éliminatoires par Corinne Diacre. L'objectif n'a pas changé malgré les petits soucis au cœur de ce groupe. Bonsoir Camille.
Bonsoir.
Alors vous dites des petits soucis sont plus que des petits soucis. C'est un énorme problème de confiance et de leadership. Et ensuite, c'est vous, Camille Abili, qui revenez sur l'affaire.
C'est vrai que les filles et le staff doivent vraiment faire preuve de professionnalisme et se concentrer sur les objectifs à atteindre. Elles auront le temps de régler les soucis qu'il y a pu avoir en interne, j'espère, pour avancer et aller encore plus loin. Mais à l'heure actuelle, il faut vraiment penser au terrain et au match de ce soir.
Ouais, la prise de parole très symbolique d'Amandine Henry qui est montée au créneau, qui a sans doute été maladroite dans le timing, dans la manière de dire les choses. Toujours est-il qu'Amandine Henry est là et l'équipe de France en a besoin de son expérience, a besoin de son leadership dans le groupe, son leadership technique aussi. Amandine Henry de retour en tant que capitaine des Bleus ce soir.
Xavier, prise de parole très symbolique, tu parles, elle l'a complètement dézinguée.
Je suis complètement d'accord. Alors moi, ce qui me gêne, et je l'ai un petit peu évoqué,
on voit bien qu'à l'antenne vous mettez les dredons pour pas que ça chauffe.
Parce que moi aussi c'est mon envie, c'est-à-dire que pour moi le principal c'est le terrain et c'est le sportif. Donc je pense que la meilleure réponse que les filles pouvaient donner c'était
j'ai
sur
compris.
Le terrain.
Mais moi ce qui m'a frappé c'est que vous donniez pas les termes qui avaient été employés. Moi je viens de l'école Canal+. Ouais. Charles Bietri et vous avez travaillé avec lui à Sport disait, les gars, il faut dire les choses. Il faut donner les extraits.
Après, on a aussi un timing, c'est-à-dire qu'on a un avant-match qui est déjà intéressant, mais qui n'est pas très conséquent non plus. Donc, on n'a pas forcément non plus le temps de rentrer en profondeur sur tout ce qui s'est dit. Je pense qu'on l'a dit après, au cours du match, on est revenu dessus, mais encore une fois, moi, l'intérêt primordial pour moi, c'est le terrain. Et je pense que Corinne Diacre l'a rappelé encore une fois après le match, en conférence de presse, en disant que son objectif, c'était la qualification. C'était fait, il y avait eu des soucis en interne, de gros soucis, je suis complètement d'accord avec vous, parce que des soucis, ce ne sont pas des petits soucis comme j'ai pu dire, effectivement, parce que quand une capitaine monte au créneau comme ça et accorde un entretien exclusif à une chaîne, c'est particulier.
Et je voudrais poser la même question à Camille Abili, vous avez fait de la diplomatie là, vous n'avez pas balancé les choses telles que vous les pensez réellement au fond de vous-même.
Après, c'est vrai que pour Amandine Henry, il y a eu des mots très forts. Est-ce qu'elle les a utilisés à bon escient? Je ne sais pas. Mais en tout cas,
je ne vous parle pas d'Amandine Henry. Je vous parle de votre manière de présenter les faits aux spectateurs qui vous écoutent.
Oui, après, on a dit quand même qu'il y avait des soucis en interne, qu'il fallait les régler, il fallait se fixer sur l'objectif. Maintenant, moi, c'est sûr que nous, on est là. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon rôle. Et depuis que j'ai commencé, c'est défendre le football féminin. Et malheureusement, on parle en ce moment beaucoup du football féminin, pas forcément pour les bonnes raisons. Donc, bien sûr que j'ai pas envie de salir mon sport et je le défendrai toujours. Maintenant, je pense que j'ai pas à prendre parti. En plus, moi, j'ai un rôle quand même particulier parce que je travaille à l'Olympique Lyonnais. Amandine Henry, c'est une joueuse, donc j'ai forcément beaucoup de respect aussi pour elle. Corinne Diacre, c'était une de mes coéquipières. Je n'ai jamais travaillé avec elle, donc je pourrais pas juger son travail. Maintenant, on a eu des échos. On sait un petit peu ce qui se passe, mais voilà, je pense que. On n'a pas envie d'envenimer les choses.
On a bien compris. On continue de parler de football féminin avec Camille Abili et Xavier Domergue, juste après ça, dans Culture Média.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Camille, Abili et Xavier Domergue, ils commandent ce soir tous les deux France-Kazakhstan sur W9 à 21h. C'est en direct de Vannes. Ils sont avec nous en direct justement de Vannes. Ils sont déjà, c'est l'Euro féminin de football. Comment ça se passe ensuite après les matchs? Est-ce que les filles vous appellent? Est-ce qu'elles regardent, est-ce qu'elles enregistrent le match et vous font des commentaires sur vos commentaires tous les deux?
Je vais laisser répondre Camille.
Non,
comme je n'ai parlé, alors je sais qu'elles re-regardent les matchs.
Ouais.
Après, elles ont aussi la possibilité de regarder avec un plan plus large que la fédération leur met à disposition,
ouais,
pour avoir vraiment toutes les images. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit précédemment, on n'en parle pas du tout, mes commentaires.
Et pendant les matchs,
elles aiment pas, je sais pas, mais j'ai aucun retour en tout cas.
Et pendant les matchs, est-ce que vous regardez tous les deux les réseaux sociaux, Xavier ou Camille, ce qui se dit en live en temps réel?
Pendant les matchs, moi, j'essaye de pas regarder, oui, parce que je suis attentif, bien sûr, à tout ce qu'il dit sur les réseaux sociaux. Après, à la mi-temps, il m'arrive de faire un petit point, quand on a un petit moment, mais c'est vrai que j'essaye un petit peu d'éviter. Après, je pense que c'est quand même important d'y jeter un œil, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se dire, peut-être pendant un match, peut-être important.
Ouais, parce que si un endroit où il y a des trolls, c'est bien dans le football, quelle que soit la manière dont le commentateur commente. Je pense à Stéphane Guy de Canal, qui se fait tout le temps dézinguer. Quand il est content du PSG, il se fait dézinguer. Quand il n'est pas content, il se fait dézinguer. On va parler des audiences. Vous attendez quelle audience ce soir? Pardon de vous dire ça, mais il n'y a plus d'enjeu. Les Bleus sont déjà qualifiés.
Oui. Après, en fait, moi, je suis surpris, très surpris positivement des audiences. C'est-à-dire que le foot féminin, aujourd'hui, pour moi, devient de plus en plus ancré,
ouais,
dans la tête des Français. Et ça se ressent. C'est-à-dire que depuis le début de cette campagne éliminatoire, il n'y a pas eu de vrai choc, si ce n'est cette double confrontation contre l'Autriche. Mais on voit que les chiffres, je trouve, sont...
C'était quoi
sont
les chiffres?
Équilibrés.
Vous les avez en tête?
Ça va entre de 800 à 1 million, et là sur le match contre l'Autriche à Guingamp, on a battu le record d'un match de l'équipe de France féminine sur un match hors Coupe du Monde et hors phase finale d'Euro.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on est monté à 1,3 million avec des pics un petit peu plus haut, donc 1,3 million, ce qui est quand même plutôt intéressant.
Parce que je dois dire,
et c'est vrai qu'il y a toujours ce cap du 1 million, 1 100 000 qui est difficile à franchir, et là on est allé au-delà. Donc effectivement, ce soir c'est un match qui n'a pas d'enjeu, mais je pense malgré tout que les Bleus sont attendus de manière à finir sur une bonne note.
Parce que je vais citer quand même les chiffres énormes de la Coupe du Monde de juin 2019, et quand je dis énorme à la Lucini, je pèse mes mots, parfois plus de 10 millions de téléspectateurs, France-USA sur TF1, 10,7 millions de téléspectateurs, plus de 50% de part de marché, à quoi il faut rajouter 1 million de personnes qui étaient devant Canal+, justement. Camille Abili, Canal+, a acquis les droits du championnat de France de foot des filles jusqu'en 2023. Ils proposent depuis cette saison l'intégralité des 132 matchs de championnat sur leurs antennes, mais ça passe pas encore sur Canal Premium, ça passe sur Canal+ Sport ou Canal+ Décalé, mais pas encore Canal+ tout court. Qu'est-ce qui manque pour que le foot féminin arrive en Premium, selon vous?
Ah, ça passe de temps en temps sur Canal, c'est déjà arrivé, certaines affiches du championnat de France, notamment au LPG. Voilà.
Ouais.
Bien sûr. Après, il faut être réaliste aussi. Déjà, c'est déjà énorme que tous les matchs soient retransmis.
Mmh.
Je pense que le niveau à l'heure actuelle du championnat, même s'il est de plus en plus homogène, il y a encore des équipes qui ont un niveau un petit peu en dessous, ne sont pas professionnelles, donc ont des conditions forcément plus difficiles. Donc, il faut essayer de rendre notre championnat encore plus attrayant. Et pour cela, je pense que ça passe par la professionnalisation. Et peut-être ce jour-là, ben, les matchs seront encore plus spectaculaires et j'espère en tout cas seront plus sur Canal.
D'accord. Xavier Domergue, vous venez d'être débauché par le groupe M6, vous arrivez sur Bein Sports.
Oui.
Vous avez dit oui tout de suite, je le sais, à M6. Vous avez dit non à Mediapro en 30 secondes. Pour quelle raison?
Pour quelle raison? Alors en fait, déjà, il y avait un contexte qui était quand même très particulier. Après, j'ai été très touché de l'intérêt de Mediapro et de Jean-Michel Roussier qui m'avait contacté à ce moment-là. Chez Bein Sports, ça faisait 8 ans que j'y étais, depuis la création de la chaîne. On a vécu quelque chose.
Il vous
chose
reste 10 secondes pour dire pourquoi vous avez dit non.
Parce que je ne sentais pas réellement le projet, malgré le fait que des amis rejoignent ce projet-là. Et ensuite, j'ai eu la chance d'avoir M6 qui me contacte. Donc là, je n'ai pas hésité en ce instant, effectivement.
Et la confirmation, Mediapro qui n'a toujours pas réglé les 172 millions d'euros qu'ils doivent à la LFP. Merci beaucoup, Xavier Domergue. Merci, Camille Abili. Vous serez ce soir en direct sur W9 à 21h, en direct de Vannes. C'est pas une vanne. France-Kazakhstan, l'Euro féminin de football. Merci d'avoir été avec nous.
Culture Média qui continue, plaisir partagé. Après le rappel des titres de 10h, nous recevrons Eva Rock pour son zapping du lendemain avec une petite fille qui reprend merveilleusement bien du Leonard Cohen, et Bertrand Chamorro pour son écran de veille avec un Jean-Pierre Pernaut un peu déçu. Notre invité, c'est l'interprète de Caprice et Fini, faut-il le présenter, le chanteur et auteur Hervé Villard. Il nous présente son livre Du lierre dans les arbres, livre très personnel. Et puis dans Les Indispensables, dernier film de David Fincher. Et puis une découverte musique, elle s'appelle Silly Boy Blue. A tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.